Je suis Juliette Éché et je suis doctorante à l'UMR Ethos, donc d'éthologie animale et humaine, et je travaille sur la communication gestuelle et multimodale des mangabés, qui est une petite espèce de primate africain.
Et moi je suis Loïc Pugnot, je travaille aussi à l'UMR Ethos à l'Université de Rennes 1 et je travaille sur les origines de nos conversations sur les grands singes, donc gorilles, chimpanzés, orang-outans et bonobos.
À la base, je me suis intéressée au comportement animal en général, en fait. Et je ne me suis pas forcément intéressée à une espèce en particulier. Et au cours de mes études, j'ai plutôt été étudier des oiseaux, ensuite d'autres primates, des chèvres. Enfin, voilà, j'ai été voir plusieurs espèces très différentes. Et les primates m'intéressent particulièrement du fait de leur proximité avec l'homme.
Ouais, bah moi, en fait, j'ai eu moins de modèles d'études différents que toi. J'ai plutôt bossé quasiment que sur des primates, en fait. J'ai commencé avec des écrevisses, donc on n'est pas sur le même délire au début. Donc j'ai commencé avec des écrevisses et après, je suis passé du lémurien au ouistiti, au primate d'Amazonie et maintenant au grand singe, du coup. Pourquoi les primates je pense qu'il y a la proximité avec nous, ouais. Une espèce de capacité à pouvoir se voir à travers eux un petit peu.
C'est fort, monsieur le procureur. Ouais. Messieurs les juges, mes arguments sont simples. Ils ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes.
On va dire qu'il y a plusieurs points de vue sur la question. Ça dépend de la manière dans laquelle on va appréhender le terme de langage chez l'humain. On peut l'appréhender de façon complexe, en fait, avec des propriétés comme la récursivité ou de propriétés de ce style qu'on n'a pas encore pu retrouver ou qu'on ne sait pas en fait si elles existent chez d'autres espèces que chez l'humain. Donc dans ce cas-là, on peut considérer que le langage, effectivement, c'est le propre de l'homme. Mais si on s'intéresse au langage comme un puzzle en fait, de caractéristiques distinctes, mais complémentaires, là, par contre, on peut retrouver ces caractéristiques chez d'autres espèces, comme notamment chez les primates non humains.
C'est de la communication qu'on appelle spontanée, c'est-à-dire qu'on n'a pas induit chez l'animal. On va regarder ce qui se passe naturellement, entre les individus.
J'appréhende le terme de conversation, en fait, surtout c'est les règles qui vont venir régir la conversation. On sait que chez l'humain, y a différentes règles, des règles de temporelles, le fait de ne pas couper la parole, par exemple, qui vont venir, un peu gouverner les conversations chez l'humain. Et en fait, on retrouve chez un certain nombre d'espèces de primates ces règles aussi dans les échanges vocaux. Donc moi, c'est de ce point de vue-là que je vais appréhender la conversation, ou du moins l'échange de vocalisation chez les primates. Alors l'évolution du langage, malheureusement on n'a pas accès aux fossiles, donc pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on va s'intéresser à nos plus proches cousins, ce qui nous permet en fait de se questionner sur les caractéristiques et les compétences caractéristiques que possèdent les ancêtres communs qu'on partage avec ses cousins proches, donc en remontant l'arbre phylogénétique en fait, hein, de l'humain, le grand singe, les petits singes, etc. Et par là, on essaye de voir quelles caractéristiques en fait, on va partager avec ces primates non humains pour essayer de retracer, alors, c'est de l'ordre de l'hypothèse, hein, pour essayer de retracer donc, potentiellement l'histoire évolutive d'une capacité, d'une caractéristique, et essayer de comprendre dans quel contexte elle a pu émerger et pourquoi elle a émergé.
En fait, le langage, c'est pas seulement la parole. En fait, le langage, on a le langage des signes, on a le langage écrit. Donc, en fait, ce qui définit le langage, c'est pas la modalité sensorielle par laquelle qu'on utilise pour communiquer. Le langage, c'est le fait d'utiliser des signaux avec un certain nombre de règles grammaticales, avec des règles sociales. Et donc, c'est cet ensemble de propriétés qui définit le langage. Et donc, ces propriétés-là, on les retrouve pas seulement dans la communication vocale des primates, mais on peut aussi les retrouver dans leur communication gestuelle. Et on retrouve en fait une espèce de complémentarité entre des propriétés de la communication vocale et des propriétés de la communication gestuelle qui sont communes au langage. Et donc l'histoire évolutive du langage, a priori, enfin l'hypothèse la plus probable, est que le langage est une histoire un peu morcelée, pas linéaire, mais qui est, que ce soit en fait un puzzle, et qui est des pièces qui viennent un peu de plusieurs modalités de communication. En fait, on va étudier les combinaisons à la fois de signaux vocaux et aussi dans le gestuel, on va regarder les séquences de gestes, les combinaisons de gestes. Et il va y avoir, pareil, des propriétés langagières qu'on va retrouver dans ces combinaisons, notamment, par exemple, dans le vocal, on va retrouver de la référentialité, une sémantique, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cris qui font référence à un élément en particulier. Et la combinaison de signaux va pouvoir, par exemple, créer des nouveaux sens. Et donc ça, c'est des caractéristiques qui sont, on pourrait dire, langagières, par exemple.
En fait, la combinaison de sons émis par les primates, en fait, elle vient pallier à potentiellement un manque de capacité d'articulation. Donc en fait, ils vont combiner différentes vocalisations qui vont ordonner différemment ou choisir différemment en fonction du contexte pour faire référence à un événement qui est en train de se passer. Par exemple, un arbre qui est en train de tomber, un léopard qui a été vu ou un prédateur dans le ciel. Voilà. Il y a des études qui ont longtemps montré que en fait le larynx chez l'humain était plus bas que celui chez les primates non humains, et en fait ces études étaient majoritairement réalisées chez des animaux qui étaient anesthésiés. Donc potentiellement, après on s'est rendu compte qu'ils avaient une capacité de mobilité qui était présente, mais à l'heure actuelle sur le contrôle moteur, en fait ce qui a pu être observé, c'est que d'un point de vue neurologique, l'humain va avoir une capacité à contrôler ses appareils vocaux hauts, donc la bouche, les lèvres, la langue, le larynx aussi, de manière plus précise que les primates non humains. Voilà, donc c'est ça qui octroie à l'homme, à l'heure actuelle, ses capacités d'articulation.
Certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais. Ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme.
Je vous en prie, au fait, docteur Anarius.
L'État accuse le docteur Zira ici présent et un chirurgien dépravé nommé Galen d'avoir fait des expériences sur cet animal, d'avoir trafiqué son cerveau et les tissus de sa gorge pour en faire un monstre capable de parler.
Ce n'est pas vrai!
Docteur, attention à ce que vous allez dire.
Et son intelligence, aurions-nous pu la créer aussi? Non seulement cet homme sait parler, mais il sait penser et il sait raisonner.
Cette chose sait raisonner. Si le tribunal le permet, je me propose de démasquer cette mystification par un interrogatoire.
Faites, docteur, et n'oubliez pas de garder à cette séance toute sa dignité.
Moi, je travaille au je travaille pas à la station zoologique, je travaille au parc zoologique de Beauval. Pour traduire une vocalisation que j'entends, je vais utiliser un micro, comme ce qu'on a ici. Je vais enregistrer donc la vocalisation, en référençant ce qui s'est passé. Et suite à ça, en fait, ce signal audio, il va être transcrit de manière informatique sur une espèce de bande de son qu'on va appeler un sonogramme. Qui va me donner certains critères, en fait, la hauteur, la fréquence, la durée. Et à partir de là, je vais pouvoir quantifier différents paramètres là-dessus. Sachant qu'à l'heure actuelle, les répertoires vocaux, notamment des grands singes, sont quand même bien connus. Donc globalement, on reconnaît assez rapidement quel cri est quoi.
Les recherches, par exemple, sur le fait d'avoir... on a les exemples des singes qui ont appris le langage des signes et donc à qui on a pu apprendre le langage des signes parce qu'il y avait cette relation particulière à l'humain. Par exemple, des grands singes qui ont été secourus après braconnage ou choses comme ça, donc qui ont été adoptés par des humains. C'est des situations qui sont non naturalistes, en fait. Et c'est pas, du coup, notre domaine d'étude. Puisque avec l'éthologie, on va essayer de décrire ce qui se passe naturellement. Et donc, le but est d'observer ce qui se passe sans intervention de l'homme. Alors après, nous, on travaille sur des animaux qui sont en captivité. Donc forcément, il y a une influence de l'homme, parce que on joue sur leur environnement, leurs conditions de vie. Et ils sont habitués à voir des hommes, et ils sont habitués à interagir avec des hommes. Et du coup... forcément, il va y avoir des choses qu'on va prendre en compte dans ce sens-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est toujours de retirer ce qui se fait spontanément.
Le but étant d'être un maximum transparent, en fait, pour les singes. Il faut qu'ils se soient habitués à nous comme un meuble dans leur environnement, quoi. Alors oui, effectivement, il y a ce piège entre guillemets. Nous, on a en fait, on utilise des protocoles qui nous permettent d'être assez objectifs. On a le comportement, on se réfère au comportement de manière très objective, ce qui nous empêche un maximum en fait de faire de l'anthropomorphisme sur ce qu'on peut observer. Après. Une fois qu'on a donc fait notre étude comportementale, etc. À la fin, on peut émettre des hypothèses, toujours en se basant sur des recherches qui ont déjà été réalisées et en évitant un maximum ce biais de l'anthropomorphisme. Bien que, il est vrai que quand on se rapproche des grands singes, on peut commencer à hypothétiser des choses un peu dans cet ordre-là. Mais c'est vrai qu'un maximum, grâce aux protocoles expérimentaux, on essaye de rester dans l'objectivisme de ce qu'on observe, de décrire un maximum ce qu'on a et d'interpréter suite à ce qui a déjà pu être observé ou un contexte qui est, encore une fois, très objectif, quoi. On ne peut pas se permettre de faire de projections nous-mêmes sur ce qu'on a observé.
C'est un peu tout le défi qu'il y a aussi, du coup, avec l'éthologie, et notamment quand on étudie les primates, c'est de... Pas laisser notre émotion, parce qu'on peut ressentir de fascination face à un primate ou quoi, de pas laisser ça déborder sur la méthode objective qu'on veut avoir. Et du coup, on fera des parallèles avec l'humain que quand c'est pertinent d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire là, si on se pose une question sur une propriété langagière, on fera la comparaison avec l'humain que sur cette propriété. Et voilà.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec Juliette. Après, c'est vrai que ça n'enlève pas non plus le fait que ces animaux aient des émotions,
bien entendu.
Par exemple, on peut avoir des mimiques de peur. On sait que là, l'animal, dans ce contexte-là, il va ressentir de la peur. Des mimiques de... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il y a la peur. Les play face, notamment.
Ouais, les mimiques de jeu, ouais, en fait. Il y a des expressions faciales qui sont...
Disons que l'émotion, on peut... l'hypothétiser suite à un comportement qu'on va voir. Par contre, ce qui va être complètement en dehors de notre champ, ça va être par exemple un sentiment. Le sentiment, on ne sait pas, on ne peut pas aller voir à l'intérieur de l'animal, quoi.
Voilà. Là, on touche aux limites de ce qu'on peut mesurer.
Des protocoles actuels. Après, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose là-dessus, mais c'est vrai que nous, l'émotion, on peut penser qu'il y a une émotion, enfin, on peut nommer une émotion, mais le sentiment, on n'y touche pas du tout, quoi. On ne sait pas ce qui se passe.
Justement, faut faire attention à ne pas surinterpréter ce qu'on voit. Et l'interprétation, elle doit toujours se faire en suivant une méthodologie claire. Et là, par exemple, quand on étudie les expressions faciales, on va forcément prendre en compte ce que ça veut dire, dans quel contexte c'est fait, à quelle émotion ça peut être lié, qu'est-ce que ça communique. Et ça, on ne le définira pas sur notre ressenti, on le définira en fonction de ce qu'on voit, c'est-à-dire quels comportements sont associés avec cette expression faciale, qu'est-ce qui se passe une fois que cette expression faciale s'est passée, qu'est-ce que ça induit chez les autres. Et c'est avec des données, comme ça, qui sont objectives, qu'on va pouvoir faire une interprétation. Mais on ne doit pas, évidemment, se laisser gagner par une interprétation personnelle, ou alors c'est plus, du coup, une approche scientifique. Research psychologist Penny Patterson is teaching Lowland Gorilla Coco the American Sign Language of the Deaf. Dr. Patterson claims Coco has a working vocabulary of about 450 signs, and that because Patterson also talks while signing, Coco understands hundreds of spoken words as well.
Down from the tree now, you've had 5 green apples.
For many years, researchers have been fascinated with the language possibilities in chimpanzees. Patterson is the first to work with gorillas. In Coco's mobile home, not far from Patterson's house, even breakfast is a time for work.
Should I pour there? All right. This is hot. You stir, Coco. It needs to be stirred. Okay, now try it. Michael.
In an adjoining room of the trailer, a trainer works with 7-year-old Michael.
Tickle? All right, where? Where, underarm?
It is hoped that one day, he and Coco will mate.
Okay. Can you find something soft? Coco? Can you find something soft? There's something soft here. Yes, that's soft.
Oui, il y a plein de trucs qui marquent. C'est pas une question facile. Notre rapport aux animaux, obligatoirement, il change. Parce que une fois qu'on commence à appréhender un peu plus facilement les comportements, c'est vrai qu'on va avoir tendance à les regarder en permanence. Donc on va plus voir notre chien comme on le voyait avant, c'est sûr. Après, particulièrement avec les primates, c'est vrai que des fois, on peut être un peu abasourdi. En voyant certains comportements qu'on ne s'attendrait pas du tout à voir apparaître chez un non-humain, on va dire. Moi, j'ai l'exemple bête de travailler avec un gorille et je dois lui donner une orange. Il fait tomber l'orange. Et je me dis, bon, est-ce que je peux aller récupérer l'orange sans qu'il me broie les mains avec ses grosses paluches ou pas ? Et au moment où je veux me lancer, il y a son fils qui arrive pour essayer de prendre l'orange, justement. Et le mâle, en fait, bloque les mains de son fils et il me regarde en lui disant, bah vas-y, maintenant, attrape l'orange, donne-la-moi, quoi. Donc, tu vois, c'est pas des comportements qui sont complexes en soi, mais c'est des trucs sur lesquels on reste un peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais voilà.
Que t'as pas forcément anticipé.
Voilà, on l'anticipe pas du tout, et quand ça nous arrive dessus, on fait, ouh. Voilà. C'est mon exemple.
Moi, je sais pas si j'ai un exemple concret comme ça en tête, mais je sais qu'au fur et à mesure, de mes études en éthologie et au fur et à mesure des expériences que j'ai pu avoir avec différentes espèces, j'ai toujours eu ce genre de surprise. En fait, c'est toujours plus complexe que ce que je pensais, en fait. Il y a toujours un moment où je me dis, ah, je pensais pouvoir appréhender ce qui se passe, et non, et en fait, c'est plus complexe que ce qu'on pense à chaque fois. Et surtout, je pense, quand on découvre une espèce, on découvre un modèle en fait, sur lequel on n'avait jamais travaillé, on a l'impression de connaître à peu près l'animal. Et puis en fait, quand on passe du temps à observer un animal, et on voit la complexité de ce qui se passe.
Ouais, c'est bien résumé. Ouais, non, c'est mignon de loin, oui. Enfin, après, ils ont des personnalités, si je peux employer le terme de personnalité, qui vont varier en fonction des individus. Donc, il y en a un, ça va être des ours, et d'autres, faut pas mettre les mains dans la cage, ou même proche. Mais ça reste comme avec un humain, finalement. On a des comportements adaptés qu'il faut employer dans des conditions adaptées. Et si on respecte pas ça, voilà. On sera peut-être les premières personnes à travailler sur des animaux qui, dans 10-20 ans, n'existeront plus, quoi.
Et je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'y pense pas, clairement, parce que quand on étudie les primates et qu'on suit un peu l'actualité, etc., qu'on regarde les statuts de conservation de n'importe quelle espèce, on est forcément très inquiet de ce qui se passe et de comment ça évolue.
Ouais. En essayant de rester optimiste, mais c'est vrai que pour la majorité, c'est pas fameux, quoi. Des Jane Goodall, des Diane Fossé, comme il y a eu, on espère. En fait, il y en a plein. Il y en a plein des petites Jane Goodall et des Diane Fossé qui travaillent comme elles peuvent dans leur coin avec l'argent qu'elles ont pour essayer de faire perdurer un projet. J'appelle ça un projet, c'est pas un projet. C'est pour faire perdurer des espèces, des animaux.
Des projets de conservation.
Et il y en a plein. Donc, il en existera encore, j'espère, qu'il en existera encore des gens pour se battre pour ce genre de problématiques. Après, c'est vrai que plus ça va et plus elles ont des difficultés, quoi. Ah, après, il faut aussi voir le côté positif. Il y a des gens qui arrivent à débloquer des fonds, qui arrivent à mener des projets de conservation, qui battent pas de l'aile, en fait, qui arrivent à bien marcher. Je passe notamment à Madagascar, un projet sur les grands apalémures qui a sauvé l'espèce de l'extinction. Donc il y a aussi ce genre de projet qui nous permet de rester optimistes. Mais globalement, c'est vrai que c'est pas ça, quoi.
I've been privileged to spend days, weeks out in the rainforest. And when you're in the rainforest, you get this understanding of how all life forms are interconnected. And each little species may seem insignificant, but it has a role to play in this great tapestry of life. And it's understanding the interconnectedness of all living things, of all problems, of all peoples, that make one understand how desperately important it is that we all do our part, whatever we can. Even if it's saving just one little species, that's going to be important.